Chacun. Merci à Sigère qui n'était pas bien, je crois même fiévreux ce matin. Et merci d'avoir, je crois que le Seigneur a soutenu aussi, mais merci beaucoup Sigère. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas raconté une histoire pour commencer, alors je... Oh. Une femme se réveille un matin et dit à son mari, « Chéri, j'ai rêvé cette nuit que tu m'avais acheté un nouveau collier en or. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ?»«
Je ne sais pas, » a répondu le mari.
« Mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Je pense que tu auras la réponse mardi prochain. » Quelques nuits plus tard, notre épouse se réveille à nouveau le matin après avoir fait un rêve dans les mêmes lignes qu'elle s'empresse de partager avec son mari. « Chérie, dit-elle, cette nuit j'ai fait un rêve qui ressemble à celui de l'autre nuit, sauf que cette fois-ci, tu m'offrais un collier de perles. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ?» Avec un grand sourire, le mari lui répond, comme la première fois, « Mardi, tu le sauras. » La nuit précédant la Saint-Valentin, la nuit du lundi au mardi, notre épouse rêve à nouveau, un rêve du même genre, et au réveil se tourne vers son mari pour lui faire part de celui-ci. « Chérie, c'est incroyable. J'ai à nouveau fait un rêve où tu m'offrais quelque chose, et cette fois-ci, c'était un collier de diamants. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ?» Mon amour, je t'ai dit que tu aurais la réponse aujourd'hui. Sois patiente jusqu'à ce soir, lui répondit le mari. Le soir venu, notre mari emmène son épouse au restaurant, puis au moment du dessert, il sort un paquet de sa poche qu'il offre à son épouse. « Joyeuse Saint-Valentin, chérie, lui dit-il. » Son épouse jubile. L'excitation se lit dans ses yeux qui brillent. Elle s'empresse de défaire l'emballage et là... elle trouve un livre. Quelle déception. Elle pense y trouver une boîte. Mais c'est un livre. Un livre dont le titre dit « La signification des rêves, comment bien les interpréter ?» J'ai beaucoup ri dans mon bureau cette semaine. Le message de ce matin a quelque chose à voir avec la déception. La déception, ce sentiment, cette émotion que nous connaissons tous et qui jaillit souvent de la frustration de nos attentes non exaucées, non accomplies, non réalisées. En effet, c'est souvent parce que le résultat ne correspond pas à l'attente, aux attentes, que nous expérimentons la déception. Il y aurait beaucoup à dire sur ce vaste sujet, mais ce matin, j'aimerais me cantonner à la déception dans le domaine de la foi, dans le domaine de la vie chrétienne. La déception qui concerne ce que nous attendons de Dieu, ce que nous espérons de lui, ce que nous comprenons de sa personne et de ses agissements, dans notre vie, dans la vie de celles et ceux qui nous entourent, et même dans le monde entier. Oui, il arrive, il peut arriver que nous soyons déçus par Dieu. Il arrive, il peut arriver que ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, ne corresponde pas à ce que nous attendions, à ce que nous espérions, à ce que nous avions demandé à Dieu. Que se passe-t-il quand j'attendais la victoire et que je vis la défaite? Que se passe-t-il quand j'attendais la guérison et que c'est la maladie qui demeure? Que se passe-t-il quand j'imaginais le bonheur, mais ce n'est que la douleur? Que se passe-t-il quand j'espérais l'abondance et que c'est la disette? Que se passe-t-il quand l'idée que je me faisais de Dieu, ou même de Jésus, ne correspond pas ou ne correspond plus à ce que je vois ou ne vois pas se réaliser dans ma vie? Que se passe-t-il quand je suis déçu par Dieu, déçu par Jésus, comment est-ce que je réagis? Voici quelques-unes des questions en lien avec ce que j'aimerais partager avec vous ce matin dans le cadre de la série « Et pourtant Jésus l'a dit », cette série où nous examinons quelques-uns des textes, des paroles difficiles de Jésus, difficiles à comprendre, parfois difficiles à obéir. Le texte que je propose à notre méditation ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Je vais lire dans la traduction de la Nouvelle Bible Seconde les versets 31 à 35. Luc chapitre 7, versets 31 à 35. À qui donc comparerai-je les gens de cette génération? À qui sont-ils semblables? Voici à quoi ils sont semblables. Des enfants assis sur la place publique qui s'appellent les uns les autres pour dire « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le baptiseur est venu, il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites « C'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs des taxes, des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Notre texte commence par une question de Jésus. « À qui donc comparerai-je les gens de cette génération ? À qui sont-ils semblables ?» Une question à laquelle Jésus apporte une réponse. Une réponse, il faut bien l'avouer, un peu énigmatique. Voici à quoi ils sont semblables. Des enfants assis sur la place publique qui s'appellent les uns les autres pour dire « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de chercher à répondre à cette question, il faut noter que les contemporains de Jésus ne sont pas les seules personnes dont Jésus parle ici. Il parle aussi de Jean-Baptiste et il parle aussi de lui-même. C'est la suite du passage des versets, au verset 34 et verset 33 et 34, qui le souligne clairement. Il est question de Jean le baptiseur et il est question du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus lui-même. Très vite, quand nous commençons à travailler le texte, quand nous commençons à réfléchir à son sens, à sa cohérence, nous comprenons que ce que Jésus dit ici de ses contemporains, des gens de sa génération ou de cette génération, est lié à la manière dont ces personnes ont accueilli Jean-Baptiste et aussi le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même. Et c'est ainsi que Jésus compare les gens de sa génération à des enfants qui jouent, des enfants capricieux, qui refusent d'entrer dans ce qui leur est proposé. Car Jean-Baptiste est venu, mangeait pas, buvait pas, vous avez dit il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mangeait, il buvait, vous avez dit que c'était un glouton, un buveur et un ami des pécheurs. Pour parler des gens de cette génération, Jésus fait donc référence au verset 32 à des enfants qui jouent et qui s'interpellent. Certains ont joué de la flûte, mais les autres n'ont pas dansé. Certains ont chanté des complaintes, mais les autres n'ont pas pleuré. Ils ne se sont ni réjouis, ni lamentés. S'il est clair que ce sont les gens de cette génération qui sont ainsi décrits, ce qui est moins clair est de savoir s'ils sont représentés par les enfants qui jouent de la flûte et qui chantent des complaintes, ou bien par ceux qui refusent de danser ou de se lamenter. Dans le premier cas de figure, quand les gens de cette génération sont représentés par les enfants qui jouent de la flûte et qui chantent des complaintes, cela voudrait dire que les contemporains de Jésus se sont plaints que Jean-Baptiste ne se réjouissait pas, qu'il ne dansait pas dans les mots du texte. En d'autres mots, c'était un rabat-joie. Car, dit Jésus, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et vous dit-il à un démon. Et il faut se souvenir ici que Jean-Baptiste menait une vie austère. Il prêchait la repentance et il annonçait le jugement de Dieu à venir. Toujours dans ce premier cas de figure, quand les gens de cette génération sont représentés par les enfants qui jouent de la flûte et par les enfants qui chantent des complaintes, concernant Jésus, cela voudrait dire que les contemporains de Jésus se sont plaints que Jésus fasse la fête, que Jésus fasse bonne chère, qu'il ne se lamente pas dans les mots du texte. Car Jésus, lui, il a mangé, il a bu, et on lui a reproché d'agir ainsi. Et il faut se souvenir qu'effectivement, Jésus était l'ami des publicains, des péagers, des pêcheurs, et qu'il a souvent partagé leur repas. Dans le deuxième cas de figure, quand les gens de cette génération sont représentés par les enfants qui refusent de danser, qui refusent de se lamenter, cela voudrait dire que les contemporains de Jésus n'ont répondu ni à la joie de Jésus, ni à la solennité ou à l'austérité de Jean-Baptiste. Assez difficile de trancher parce qu'il y a vraiment des arguments pour les deux compréhensions. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces deux compréhensions sont finalement très proches l'une de l'autre. Et cela m'amène à dire que dans les deux cas de figure, ce qui est souligné, c'est que les gens de cette génération, les contemporains de Jésus, n'ont accepté ni Jésus, ni Jean-Baptiste. Quel que soit le cas de figure retenu, c'est la conclusion à laquelle nous pouvons arriver. Bien sûr, certains ont répondu positivement, ont accueilli Jean-Baptiste, ont accueilli et suivi Jésus. Certains se sont repentis, se sont fait baptiser par Jean-Baptiste. D'autres sont devenus disciples de Jésus. Dans les versets qui précèdent ceux de notre passage, Jésus y fait allusion. Tout le peuple qui l'avait écouté, dit-il, et les collecteurs des taxes avaient justifié Dieu en recevant le baptême de Jean, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi, en ne recevant pas de lui le baptême, avaient rejeté les décisions de Dieu à leur égard. Et puis à la fin de notre passage, verset 35, « Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Il ne s'agit donc pas de mettre tout le monde dans le même sac, quand il est question des gens de cette génération. C'est premièrement et uniquement ceux qui ont refusé d'accueillir l'enseignement de Jean-Baptiste et celui de Jésus, en particulier les pharisiens et les spécialistes de la loi qui sont ici clairement dans le collimateur de Jésus. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que ce double rejet de Jean-Baptiste et de Jésus c'est fait pour des raisons diamétralement opposées. De telle manière que si c'est l'austérité de Jean-Baptiste qui était problématique, alors l'accueil de Jésus faisant bonne chère aurait dû être évident. De telle manière que si c'est la joie de vivre de Jésus qui était problématique, alors l'austérité de Jean-Baptiste, annonçant, prêchant la repentance et annonçant le jugement de Dieu, aurait dû être évident. Il y a donc une incohérence ici qui est épinglée par Jésus et qui souligne, à mon avis, la malhonnêteté des motivations qui sont avancées, qui apparaissent plus comme des prétextes ou des excuses. J'aimerais avancer ici sur la véritable raison du rejet de Jean-Baptiste et de Jésus. Enfin, j'aimerais avancer ici que la véritable raison du rejet de Jean-Baptiste et de Jésus est bien évidemment le cœur fermé à l'œuvre de Dieu, c'est une évidence, mais plus précisément, le fait que ni Jean-Baptiste, ni Jésus ne rentraient dans l'attente, dans le schéma que les contemporains de Jésus, et en particulier les responsables religieux de l'époque, avaient du Messie et de son précurseur. Quelle était cette attente ? C'était bien évidemment l'attente d'une délivrance. Mais d'une délivrance qui s'était transformée en délivrance des Romains. Or, Jean-Baptiste, préparant le chemin du Messie, puis Jésus ont bien annoncé une délivrance, mais la délivrance des péchés, de l'esclavage du péché, et non pas de l'occupation romaine. Que faire quand le résultat ne correspond pas à l'attente ? Que faire quand ce que Dieu fait, ce qu'il permet, ne colle pas avec ce que j'espérais ? Que faire quand la déception pointe le bout de son nez dans ma vie ? Notre passage et son contexte immédiat vont nous offrir deux réponses contrastées. Celle des contemporains de Jésus en général et des autorités religieuses en particulier, qui se sont traduites par le rejet dont nous venons de parler, mis en exergue par la comparaison que Jésus fait avec les enfants dans notre texte. Et puis il y a celle de Jean-Baptiste. Celle de Jean-Baptiste dont j'aimerais dire quelques mots maintenant, parce qu'elle se trouve dans les versets qui précèdent notre texte. Jean-Baptiste a dû lui aussi faire face à la déception du résultat qui ne correspondait pas à ses attentes. Quand nous le retrouvons dans les versets qui précèdent les nôtres ce matin, c'est un homme désabusé, c'est un homme déçu, c'est un homme dont les attentes ont été frustrées et même laminées. Jean-Baptiste était pourtant un homme qui espérait en Dieu, un homme qui était fidèle à Dieu, un homme qui a même fait de grandes choses pour Dieu. Mais c'est aussi un homme qui s'est réveillé un matin en découvrant le décalage immense entre ses attentes de Dieu et la réalité dans sa vie. Jean-Baptiste est à beaucoup d'égards un homme exceptionnel. Et Jésus va le souligner dans les versets qui précèdent, dans les versets 24 à 28. Après le départ des messagers de Jean, il se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu avec raffinement ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Jean-Baptiste, le plus grand de l'ancienne alliance. Jean-Baptiste à qui a été confiée la mission glorieuse d'annoncer le Christ, de préparer son chemin. Et cette mission de précurseur, de préparateur, Jean-Baptiste l'avait bien comprise. Il savait qu'il n'occuperait pas le devant de la scène pour toujours, ni même pour longtemps. Il savait qu'après lui viendrait quelqu'un de bien plus grand que lui, dont il se savait indigne de délier la courroie de ses souliers. Il était conscient que viendrait le moment où il faudrait passer le relais, le moment où les projecteurs ne seraient plus sur lui, mais sur le Christ. Il le savait. Et c'est pourquoi nous lisons dans Jean 3 au chapitre 30, « Il faut qu'il croisse » en parlant de Jésus, et que je diminue. Jean-Baptiste était au clair sur cela. Mais c'est au chapitre 7, donc le chapitre qui nous intéresse ce matin de l'évangile de Luc, que va se produire le moment où Jean-Baptiste va quitter le devant de la scène, le moment où il va être confronté à ce décalage, le moment où il se retrouve en prison, alors que la popularité de Jésus va grandissant. Au commencement du chapitre, de ce chapitre 7 de l'évangile de Luc, Luc va nous rapporter deux miracles. Le premier miracle, c'est la guérison du serviteur du centenier romain, les versets 1 à 10. Le deuxième miracle, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Versets 11 à 15. Et puis tout de suite après, versets 16 à 18, nous lisons « Tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Les disciples de Jean lui racontèrent tout cela. Jean-Baptiste est en prison et le peuple acclame Jésus. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. A priori, pas de problème pour Jean-Baptiste. Il a attendu ce moment. Il l'a même espéré, il l'a même annoncé. Pourtant, quand il est informé par ses disciples de ce qui est en train de se passer, Jean-Baptiste va douter. Va douter et la déception se lit entre les lignes du texte. Je lis les versets 18 à 23 et on aura lu tout le chapitre. Jean appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur « Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?»« Ah bon Jean, t'es pas au clair sur la question ?» Arrivés auprès de lui, les hommes dirent « Jean le baptiseur nous a envoyé te demander « Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment même, il guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et il leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jean-Baptiste envoie deux de ses disciples demander à Jésus s'il est bien le Messie, celui qui doit venir, ou bien s'ils doivent en attendre un autre. Pourquoi ce doute? N'était-il pas évident que Dieu visitait son peuple par Jésus? Jean-Baptiste n'avait-il pas lui-même déclaré de Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ?» N'avait-il pas entendu cette voix venant du ciel au moment du baptême de Jésus ? « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il l'a entendu. N'a-t-il pas ensuite déclaré « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu ?» Oui à toutes ces questions. Oui, Jean a fait tout ça, a compris tout ça, et pourtant il doute. Pourquoi le doute ? Pourquoi la déception? Jean-Baptiste doute parce que Jésus n'est finalement pas le genre de Messie qu'il espérait, qu'il attendait. Jésus ne correspond pas aux attentes messianiques que Jean-Baptiste avait. Il avait une idée bien précise de la mission du Messie. Et voilà que celui en qui il a espéré est si différent. Si différent de tout ce qu'il avait imaginé. Certes, Jean-Baptiste est un grand prophète, mais c'est un prophète de l'ancienne alliance. Et ses attentes messianiques sont essentiellement les mêmes que celles de ses contemporains. L'Ancien Testament annonce un Messie sauveur, libérateur, je l'ai dit, rappelé, et tout naturellement dans le contexte de l'occupation romaine, de la Palestine, on attendait, on espérait un accomplissement littéral du Messie sauveur, du Messie libérateur. Un Messie derrière lequel le peuple pourrait se rallier pour bouter l'envahisseur hors de la terre promise. Et quand Jean-Baptiste annonçait que le royaume des cieux était proche, beaucoup, dont lui, certainement, devaient penser tout naturellement à un royaume terrestre, à un royaume physique, tout sauf un royaume spirituel. Et ce royaume physique était d'ailleurs l'attente des Zélotes. Et c'était à l'évidence aussi l'attente de certains disciples, peut-être même de tous les disciples. Souvenez-vous de Pierre qui tire l'épée au moment de l'arrestation de Jésus? Est-ce que c'est enfin le moment où on va y aller pour les tailler en pièces et établir le royaume de Dieu sur la terre promise? Le peuple s'attendait à cela, et Jean-Baptiste très certainement aussi. Il attendait l'établissement d'un royaume littéral qui inévitablement passerait par le jugement des méchants qu'il a prêché, le jugement de Dieu sur les impies, sur les méchants. Et le discours de Jean-Baptiste est rempli de cette ferveur eschatologique. La fin des temps est proche, le grand bouleversement de toutes choses est imminent. Il parle de la cognée qui est déjà mise à la racine des arbres. Il parle du blé qui sera séparé de la paille, de la grande moisson à venir. Il parle du Messie qui a son vent à la main, prêt à moissonner et à brûler les méchants dans le grand feu qui ne s'éteint jamais. Jean-Baptiste prêchait la repentance parce que le royaume des cieux était proche à ses yeux, parce que le jour du jugement était imminent, parce que le Messie qu'il annonçait était sur le point de tout révolutionner. Mais voilà, le Messie en qui il a cru est tout sauf ce qu'il attendait. Ce n'est pas le Messie de ses rêves. Ce n'est pas le Messie de ses attentes. Ce n'est pas le Messie de son espérance. Le Messie est là, mais les Romains aussi. Le Messie est là, et le voilà qui guérit même le fils d'un centurion romain, d'un centenier romain. Tout est tellement différent. Le Messie est là, et lui, il croupit en prison. Et il est bon de se rappeler que, même s'il y a de la surpopulation carcérale en France, les prisons de l'époque n'ont rien à voir avec les prisons d'aujourd'hui. C'était de petites cellules très très exiguës, sans lumière, sans aération, dans la moiteur de la mer morte qui était tout proche, dans la puanteur de ses propres excréments, et je vous passe le détail des autres choses. Quelle déception pour Jean-Baptiste. Il y a là de quoi faire douter le plus affermi des enfants de Dieu. Jean-Baptiste a espéré en Dieu. Il a attendu le Messie, il a cru l'apercevoir en Jésus, et puis là, tout s'écroule. Il y a vraiment de quoi ne plus rien y comprendre. Alors voilà pour le constat. Mais ce que j'aimerais surtout souligner maintenant, c'est que Jean-Baptiste n'en est pas resté là. Il aurait pu s'enfermer dans ses doutes. Il aurait pu tout rejeter en bloc. Mais au lieu de cela, il envoie des émissaires pour demander à Jésus une explication. Et Jésus va apporter une réponse à l'interrogation de Jean-Baptiste. Notons qu'il n'écrase pas de reproches Jean-Baptiste, mais il va simplement faire et il va dire ce qui est nécessaire pour lui confirmer qu'il est bel et bien le Christ annoncé et attendu. Que fait Jésus après la question des disciples de Jean? Nous lisons au verset 21 qu'il a guéri. À ce moment même, dès que les émissaires lui ont posé la question, à ce moment même, il guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Jésus fait ce que le Messie annoncé par les prophètes devait faire. Avec l'embarras du choix, je vous donne trois courts textes dans le prophète Ésaïe qui parlent de ce que le Messie allait faire quand il viendrait. Ésaïe 29, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les peuples et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Ésaïe 35, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus guérit. Voilà la réponse de Jésus à Jean-Baptiste. Il accomplit les prophéties concernant les agissements du Messie. Et puis il renvoie ses disciples de Jean vers Jean, chargés de cette réponse, chargés de la confirmation, écriture à l'appui, qu'il est bel et bien le Messie annoncé, promis. Verset 22, il leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Oui, Jésus est bien le Messie promis. Il reste maintenant à Jean-Baptiste le travail souvent douloureux, parfois de longue haleine, du réajustement des attentes. Douloureux mais nécessaire, indispensable même. Ce travail de réajustement, les gens de cette génération, les autorités religieuses de l'époque, n'ont pas su le faire. Ils ne se sont pas laissés bousculer par ce que disait Jean-Baptiste. Ils ne se sont pas laissés bousculer par ce que disait Jésus. Ils auraient pu, eux aussi, s'approcher de Jésus, s'approcher de Jean-Baptiste pour mieux comprendre, pour demander, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont accrochés à leur compréhension des choses et ils se sont enfermés dans leurs contradictions. Et nous, qu'en est-il de nous? Nous aussi, nous connaissons, nous pouvons connaître ces moments où les réponses de Dieu, les agissements de Dieu, la volonté de Dieu ne cadrent pas ou ne cadrent plus avec nos attentes. Nous entrons tous dans la vie chrétienne avec toutes sortes d'attentes, remplies d'idées, de conceptions parfois bonnes, parfois mauvaises, sur la vie chrétienne, sur Dieu, sur l'Église, sur la foi, etc. Et en particulier sur la manière dont Dieu doit agir dans notre vie. Et tôt ou tard, nous constatons qu'il y a un décalage entre ce que nous avions compris, entre ce que nous attendions et ce que nous voyons se réaliser dans notre vie. Que faisons-nous alors? Nous enfermons-nous dans nos attentes? Restons-nous figés sur nos compréhensions? Ou bien, à l'instar de Jean-Baptiste, venons-nous à Dieu, à Jésus, à sa parole pour comprendre, pour apprendre, pour pouvoir réajuster? Parce que le danger qui nous guette, c'est celui de l'enfermement, c'est celui de l'entêtement, c'est celui de la fierté qui nous empêche de considérer que nous avons peut-être fait fausse route, que nous n'avons peut-être pas encore tout à fait compris ce que nous devrions avoir compris. Le danger qui nous guette aussi est de laisser la déception, l'incompréhension se transformer en doute, puis le doute en incrédulité et parfois même en amertume envers Dieu. Le danger qui nous guette alors est celui de nous éloigner de Dieu, celui de nous arrêter sur le chemin de la foi. Il est tellement facile de laisser nos attentes frustrées mettre de la distance entre nous et Dieu. Et il est si facile d'en vouloir à Dieu. Lui en vouloir parce qu'il n'a pas fait ce que j'espérais. Parce qu'il n'a pas fait ce que je lui avais demandé. Parce qu'il n'a pas fait ce pourquoi je le suppliais. Lui en vouloir parce qu'au lieu de la délivrance, il attend de moi que je vive en comptant sur sa grâce. Lui en vouloir parce que peut-être il n'a pas empêché qu'un être cher s'en aille. Lui en vouloir parce qu'il permet que l'épreuve dure. Il est si facile d'en vouloir à Dieu. Parfois c'est inconsciemment, parfois c'est consciemment. Mais c'est toujours comme un poison silencieux qui progressivement érode notre confiance en lui. Oui, il est si facile de vouloir que Dieu se plie à notre volonté, qu'il rentre dans le moule de nos attentes. Il est si facile de vouloir un Dieu à notre image, qui se plie à notre volonté, à notre convenance, un Dieu qui nous convient, un Dieu qui ne nous bouscule pas trop, un Dieu qui nous sert, qui sert nos intérêts et dont nous nous servons. Finalement, qu'est-ce que nous attendons de Dieu, de Jésus, de la vie chrétienne? Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Il est bon de régulièrement nous poser cette question. Nos attentes de Dieu, de son action dans notre vie, sont-elles justes? Sont-elles fondées sur la parole de Dieu? Vous êtes peut-être actuellement déçu par Dieu, déçu par Jésus. Comment y faites-vous face? Si ce n'est pas le cas, ce moment des attentes déçues ne manquera certainement pas d'arriver dans votre marche chrétienne. Comment y ferez-vous face alors? Tout au long de notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin d'accepter d'être bousculés par lui. Nous avons besoin d'accepter de réajuster nos attentes. Nous avons besoin d'accepter de les recadrer toujours plus justement sur Dieu et sur sa volonté. Besoin de revenir à sa parole pour qu'elle soit véritablement la lumière qui nous guide sur notre sentier. En particulier quand nous doutons, quand nous ne comprenons pas ou plus les voies de Dieu, quand nos attentes ont été frustrées. Le choix pour nous est le même que pour les disciples d'alors. Soit nous campons sur nos positions, soit nous allons vers Dieu, vers sa parole, en acceptant de nous laisser remettre en question et en laissant sa parole, par son esprit, faire son œuvre de transformation dans notre cœur, dans notre pensée. Le problème, ce n'est pas d'être déçu, c'est inévitable. Le problème, ce n'est même pas de douter. Notre nature pécheresse rend cela incontournable. Le problème, c'est de s'enfermer dans nos certitudes, au point de devenir hermétique à ce que Dieu pourrait nous dire, au point de devenir hermétique à l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Avec la confirmation qu'il est bel et bien le Messie, Jésus va proclamer une béatitude au verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Cette béatitude sous-entend, implique que Jésus peut effectivement être une occasion de chute. Et quand cela arrive, quand nous sommes tentés que cela se produise, il est bon que nous nous rappelions cette béatitude. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On pourrait peut-être paraphraser et dire, heureux ceux qui savent réajuster leurs attentes vis-à-vis de Dieu. Heureux ceux qui savent accepter sa volonté dans leur vie. Voyez-vous, le problème de nos attentes frustrées, ce n'est pas un problème de la faiblesse de Dieu qui ne pourrait pas agir et faire ce que nous lui avons demandé. Ce n'est pas un problème de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un problème de sa bonté. Le problème de nos attentes frustrées, c'est avant tout la question de nos attentes faussées, irréalistes, égoïstes même, charnelles, orgueilleuses. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Montre-moi si dans mes attentes, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons absolument comprendre que c'est notre volonté qui doit toujours se conformer à la volonté de Dieu et jamais l'inverse. Nous devons comprendre que si Dieu nous fait ce cadeau immense de pouvoir lui adresser toutes nos requêtes, lui faire connaître même les désirs de notre cœur, lui demander même parfois d'éloigner certaines coupes de nous, cela doit toujours se faire dans la même soumission de Jésus à Gethsémané. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. C'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui est infiniment sage et qui sait toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pourquoi nous pouvons nous en remettre pleinement à lui. C'est pourquoi nous pouvons être confiants que sa volonté pour nous est toujours bonne, agréable et parfaite. L'apôtre Paul a supplié Dieu par trois fois de lui ôter son écharde dans la chair. Quelle a été la réponse de Dieu ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul a dû réajuster ses attentes, mais il a dû le faire avec l'assurance, ou il a pu le faire avec l'assurance de la grâce de Dieu agissante dans sa vie. Paul a dû réajuster ses attentes, et c'est aussi ce que nous devons faire parfois. C'est certainement ce que Jean-Baptiste a dû faire quand ses disciples sont revenus vers lui. Le texte n'en dit pas un mot, mais nous pouvons l'imaginer. C'est à l'évidence ce que les pharisiens et les autorités religieuses de l'époque n'ont pas su faire. Si nous sommes disciples du Seigneur, nous connaissons tous la frustration des silences de Dieu. Nous connaissons tous la réalité des attentes frustrées. Nous connaissons tous le sentiment de ne plus comprendre ce qui se passe dans notre vie. Nous connaissons tous le décalage qui peut exister entre notre volonté et celle de Dieu. Comment y faisons-nous face ? Le Seigneur nous aide à faire les ajustements nécessaires quand il s'impose, qu'il nous aide à toujours venir à lui, qu'il nous aide à toujours chercher dans sa parole la nourriture pour continuer le chemin, qu'il nous aide à vivre de sa grâce, dans les bons comme dans les mauvais jours. La leçon est facile à comprendre quand nous sommes au bord du Jourdain. Je fais référence à Jean-Baptiste, au moment du baptême de Jésus. Là, c'est le feu d'artifice, hein, tout. C'est facile. C'est beaucoup plus difficile quand on est dans le dur, en prison ou dans les difficultés, comme au moment de notre texte. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Je sais que c'était très long ce matin. Je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse.